Avant de commencer, on va prier. Et puis, que vous puissiez, eh bien, que Dieu puisse agir dans nos cœurs. Parce qu'il agit toujours. Et il parle à chacun de nous. Alors, on va prier, et puis après, Bertrand a reçu une parole du Seigneur pour une personne, et que Dieu puisse être glorifié, surtout que cette personne puisse la recevoir. Merci Seigneur, je veux te remettre cet instant, Seigneur. On se tient devant toi, tu es le Dieu de l'univers. Celui qui a tout créé, qui sait tout, qui fait tout, qui est tout puissant, Seigneur. Et nous, Seigneur, nous sommes tes créatures, Seigneur, mais pas n'importe lesquelles. Nous sommes le fruit de ton amour, Seigneur. Je te remercie de toute cette grâce merveilleuse, Seigneur, que tu répands sur chacun de nous, de ta paix, de ta joie, de ta présence continuelle. Ton amour est inestimable, ton amour n'a pas de prix, Seigneur. Et on veut disposer nos cœurs ce matin, à recevoir ta parole, Seigneur, parce que ta parole est amour, Seigneur, parce que tu es amour. Et que nos cœurs, Seigneur, puissent te glorifier à chaque instant, dans chacune de nos vies et surtout, Seigneur. Nous ne sommes pas là sur cette terre, fruit du hasard, nous sommes le fruit de ton amour, mais tu nous as confié une tâche, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, marcher dans tes voies, accomplir le projet que tu as pour chacun de nous. Merci pour ton nom précieux, Seigneur Jésus. Et on dit Amen, gloire à Dieu. Alors, que Dieu puisse se glorifier, Amen. Je vais essayer la place à Bertrand qui puisse parler et écouter ce que le Seigneur a à nous dire.
Voilà, le Seigneur m'a mis une vision, vraiment à cœur cette parole que je vais vous donner. C'est une sœur qui est dans la détresse, qui se sent abandonnée, perdue, qui a du mal à comprendre tout ce qui lui arrive, qui se sent vraiment dans une angoisse s'est emparée d'elle. Elle a du mal la nuit, elle se sent désespérée. Et le Seigneur te dit, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ne t'inquiète pas. Je suis avec toi et prends mon manteau et moi je vais prendre ta main. Je vais te prendre ta main et je vais te sortir de cette vallée. Et tu vas me glorifier, tu vas voir que ma puissance est là. Je vais te loindre de mon amour qui surpasse tout amour. Et tu vas voir ma gloire se manifester dans ta vie. Mais lâche tout et regarde à moi. Ne t'inquiète plus, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte. La crainte ne vient pas de moi. Ne regarde qu'à moi et ne vois rien d'autre. Laisse-toi complètement abandonner. Abandonne-toi à moi complètement. Et tu vas voir ma gloire se manifester dans ta vie, te dit le Seigneur. Le Seigneur est aussi une parole pour plusieurs d'entre vous. Voilà ce que dit le Seigneur. Je vous ai donné des dons, des talents physiques, des talents spirituels. Mais vous les enterrez, vous ne les travaillez pas, vous ne les cherchez pas non plus. Et le Seigneur vous dit, je vous ai donné, et ce que je vous ai donné, il faut le donner aux autres. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a des gens qui attendent des paroles, il y a des gens qui attendent des manifestations de mon esprit. Je vous ai donné, c'est à vous de vous manifester pour que ma gloire se manifeste. Dans vos vies et dans la vie des autres, vous dit l'Éternel. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous parle. Et combien c'est important de retenir les paroles que le Seigneur nous donne. Parce qu'il a à cœur nos âmes. Ce matin, je vais vous parler de la valeur d'une âme. Hier, il y a une chose que je vais vous dire. Si vraiment vous vous ennuyez en voiture, vous prenez Bastien avec vous. Sincèrement, là, il n'y a pas de problème. Vous le prenez avec vous. Essayez de prendre un pas trop long, quoi, finalement. Nous, on allait jusqu'à Mulhouse. C'est vrai qu'il y a eu un battement, je reconnais, de à peu près 200 mètres, quoi, avant d'arriver pour qu'il se taise. Et en revenant, c'était pareil, quoi. Donc, c'est... Disons que nous, on a parlé de ce que tu disais, quoi. C'est surtout ça. Et ça, j'avais à cœur de vous faire un message, c'était sur la reconnaissance. Et je reconnais que je n'ai pas trop eu le temps de le faire, mais suite à ce qu'a dit Bastien, c'est très facile de faire un message quand Bastien vous parle. Il vous parle, il vous parle, il vous parle toujours du salut des âmes. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler de la valeur d'une âme. Il y a un homme, hier, on était à cette conférence, et c'est vrai, pour rebondir sur ce que disait Josiane, on a peut-être 7 ans de retard, mais qu'est-ce qu'on court vite. Et on va les rattraper, et c'est ça, c'est formidable. Mais c'est bien, on laisse faire. Dans le principe du lion et de la lionne, c'est que le lion, il met la tête dans le sable, il rugit, et la lionne, elle fait le travail. Donc, c'est comme ça. Donc, les lionnes, elles ont fait le travail, et nous, maintenant, on récolte les fruits. Ça se passe comme ça dans le désert. Enfin, surtout dans la savane. Le prix d'une âme. Dans Matthieu, au chapitre 16 et au verset 26. Matthieu, chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est deux questions. Deux questions d'actualité qui sont posées par Jésus et ça nous pousse à réfléchir. Alors, on va essayer d'y répondre très rapidement. Et face à la première question, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Jésus nous pousse d'abord à réfléchir sur l'ordre des priorités entre le monde et l'âme d'un homme. C'est une réflexion que Jésus nous pousse à avoir. Et la Bible, elle emploie le mot « monde » dans un sens, dans plusieurs sens. Mais il y a un sens qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Le monde, c'est la totalité des biens terrestres, des richesses, des avantages, des plaisirs. Toutes ces choses qui ont un prix, toutes ces choses qui poussent au désir et toutes ces choses qui peuvent amener l'âme à la perdition. Ici-bas, on peut monnayer n'importe quoi pratiquement. D'où cette expression que l'on entend souvent, l'argent peut tout. Mais il y a une chose qui n'a pas de prix. C'est mon âme. Il y a une chose qui n'a pas de prix, c'est votre âme. Et Jésus, il y accorde une valeur qui est inestimable. Et tout de suite, il y a cette deuxième question. Que donnerait un homme en échange de son âme ? Et l'âme, c'est le siège de la volonté. C'est nos désirs, c'est notre intelligence, c'est nos émotions, c'est nos sentiments. Enfin, c'est l'homme lui-même, en gros. L'âme, c'est la vie. Et quelle est donc sa valeur ? Jésus, il est en train de nous dire que tout l'or du monde ne peut acheter notre âme ou ne peut acheter notre vie. Sinon, les riches vivraient sur cette terre éternellement et sans connaître de tracas. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on saisit la valeur d'une âme ? En valeur monétaire, si j'additionne toutes les richesses cumulées de tous les pays de la Terre, ça fait environ 65 000 milliards de dollars. On dirait 60 000 milliards d'euros. Plus la valeur donnée à la paix, plus la valeur donnée à la guerre, plus la valeur donnée au bon air, plus la valeur donnée au sol non pollué, plus la valeur donnée au bénévolat. Tout ça, ça a une valeur immense qu'on ne peut pas chiffrer. Et sur la balance divine, c'est le poids de votre âme. Le poids d'une âme. Quel est le prix d'une âme ? Quelle est la valeur d'une âme ? Le prix d'une âme, c'est cette réponse de Jésus à son Père. « Je viens au Père pour faire ta volonté. » Ça, c'est le prix d'une âme. Et puis, il y a d'autres versets dans le jardin de Gethsémané. Alors que Jésus est en proie au doute, il sait qu'il va mourir sur la croix, il sait qu'il va souffrir, il sait qu'il va être arrêté, qu'il va être rejeté, qu'il va être abandonné de tous. Le prix de votre âme, c'est non pas ce que je veux, mais Père, ce que tu veux. Le prix de votre âme, le prix d'une âme, c'est la venue de Jésus sur cette terre. Dans Philippiens, au chapitre 2 et au verset 6, il est écrit. Et c'est ça le prix. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher, à être, d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Lui, le Fils de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ça le prix de ton âme. C'est ça le prix d'une âme. Le prix, la valeur d'une âme, elle peut se chiffrer en valeur marchande. Le trafic d'esclaves, on parlait hier, Mathieu parlait de A21, hein, c'est ça, les femmes qui sont trafiquées, le trafic des femmes, voilà, c'est ça. Ça peut être une valeur marchande, mais pour Dieu, la valeur d'une âme, elle se chiffre en valeur de sacrifice, en argent, en temps, en personne, en famille. Elle se chiffre en don de soi, en abdégation, en amour. Et toutes ces choses, ça se résume en un mot. Vision. Toutes ces choses, c'est le mot vision. La valeur d'une âme, c'est une question de vision. Dans Jean, au chapitre 4 et au verset 35. Alors que Jésus, il est en train de parler à une femme qui est samaritaine. Alors que les disciples viennent voir Jésus et lui disent, mais qu'est-ce que tu fais à te parler avec cette femme ? Alors qu'il y a toute la ville, enfin beaucoup de gens de cette ville de Sichem ou de Sichar qui sont venus vers Jésus, qui sont là autour de Jésus à l'écouter, et les disciples ils disent, on ne pourrait pas manger quelque chose ? Ça serait bien qu'on puisse manger. Il y a une réunion qui est là, il y a plein de gens qui sont là, ils n'ont aucune vision. Eux, ils ne pensent qu'à une chose, c'est leur plaisir, leur désir, leur satisfaction personnelle. Et Jésus leur dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent. Déjà, c'est ça la valeur d'une âme. C'est la vision. Lorsque Jésus il se promène dans une ville qui s'appelle Jéricho, il voit un homme qui s'appelle Zachée, il est caché dans un arbre. Zachée, personne ne le supporte. Le gars qui ramasse l'argent, c'est un collecteur d'impôts. Un gars qu'on n'aime pas bien. Ou qui ne représente pas ce qu'on a envie. On n'a pas envie qu'on nous prenne notre argent. Et Jésus, il regarde cet homme. Et alors que tout le monde est en train de le dénigrer, Jésus le regarde et dit, cette âme, cet homme, c'est aussi un fils d'Abraham. Et lui aussi, il a besoin et il doit être sauvé. Amen. Un jour, il y a un homme qui s'appelle, on ne sait pas son prénom, mais il est riche. C'est un jeune homme. Il a cœur. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire de bon pour hériter la vie éternelle ? Et Jésus le regarde et il est écrit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Que tu sois en bonne santé, que tu sois en mauvaise santé. Jésus t'aime. Et il a pensé à toi. Parce que ton âme est inestimable. Dans Luc, au chapitre 19, regardez au verset 41. Je vous laisse chercher dans votre Bible, comme ça j'ai le temps de me moucher. J'ai un peu le rhume. J'ai chauffé froid en jouant au foot dimanche, comme disait Mathieu, c'est pour ça. J'ai chopé froid avec Bruno. J'ai montré ce que c'était que le foot, qu'un lion qui rugit sur un terrain. Il n'a pas rugi longtemps, mais aujourd'hui, je suis là quand même. Alléluia. Mais Raymond a prié pour moi, et ça, c'est merveilleux. C'est vrai. Luc, chapitre 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, donc il s'approche de Jérusalem, Jésus voit cette ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront. Toi, tes enfants au milieu de toi, nous ne te délaisserons pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus, il vient dans cette ville de Jérusalem et il donne sa vie pour la sauver. Mais ils l'ont refusé. Ils l'ont refusé. Quand on saisit la valeur d'une âme comme Paul, on ne peut que s'écrier « Malheur à moi !» si je n'annonce pas l'Évangile. Quand on sait la valeur d'une âme, on est pris par ces choses. Dans Philippiens, chapitre 1, Il y a beaucoup de versets ce matin. Philippiens chapitre 1 et au verset 20. Et moi, je vous invite sincèrement, je vais vous le dire, c'est des choses qui sont sur mon cœur depuis longtemps, mais ça a toujours été, donc ça ne me dérange pas de le redire encore. Sincèrement, si vous venez au culte seulement pour écouter, vous n'allez pas vous faire du bien. Parce que écouter seulement le culte, vous allez repartir, je suis persuadé qu'on va vous offrir un picon, une choucroute, on va vous amener à danser. Je suis sûr qu'à 5 heures du soir, vous ne savez plus du tout ce qui s'est passé. Et je vous le dis, je fais des choses, c'est moi qui prêche. Mais il arrive des fois, le jeudi ou le vendredi, je ne me rappelle même pas ce que j'ai prêché le dimanche. Après, ça revient tout de suite. Il n'y a pas de problème. Mais des fois, je me dis, au fait, j'ai prêché quoi? Bon, c'est peut-être Alzheimer. Mais quand j'étais... Je pense qu'on est tous atteints de la même chose. Donc, combien c'est important? Et moi, je me dis, je me réjouis de noter mes messages. Au moins, je sais, je peux y revenir. Et il y a une chose que je faisais avant. Je reconnais que je ne le fais plus beaucoup. Mais avant, je faisais une chose. C'est qu'arrivé le dimanche soir, je reprenais mon message et je le relisais le dimanche soir. Et puis même, je refaisais le message du dimanche d'après parce que j'étais tellement pris dans la journée que c'était des choses merveilleuses. C'est pour ça, moi, je vous invite à écrire ou à... Sur Internet, vous pouvez avoir le message et le méditer dans la semaine. Voilà, gloire à Dieu. Philippiens, chapitre 1 et au verset 20. « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie. » Et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Paul, il dit, le ciel, il est préférable à la terre, mais pour sauver au moins une âme, je choisis de rester sur la terre. Quoi que cela puisse me coûter. Si vous prenez la parole de Dieu, et moi je vous invite à la lire, on ne va pas en parler aujourd'hui, on parle de la parole, mais je vous invite à lire le livre des Actes par exemple. Le prix d'une âme, c'est la prison pour Pierre, c'est la prison pour Paul, c'est les martyrs des apôtres, c'est les martyrs d'autres témoins de Christ, c'est la prise de position de Paul face à un homme qui s'appelle Pierre, qui a une colonne dans l'église. C'est sa prise de position face à lui dans une église de Galatie. Le prix d'une âme, c'est ce que dit Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 23. Vous avez plein de versets à méditer cette semaine. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le puis plus encore. Pour le prix d'une âme, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus... Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des méchants, des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes. Multiplié au froid et à la nudité, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises ou toutes les âmes. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient tomber? Que je ne brûle, dit la parole de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 12 encore, au verset 15. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépasserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens encore, chapitre 4 et au verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattu, mais non perdu, portant toujours avec nous dans nos corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Amen. C'est quoi le prix d'une âme ? C'est préférer l'enfer pour le salut d'une âme. Mais c'est une folie. Paul, il dit, je préfère être anathème pour que les gens de ma nation soient sauvés. Ça veut dire, je préfère être perdu, rejeté en enfer, pour que les gens de ma nation soient sauvés. Mais un gars comme ça, c'est un terroriste. Et moi, j'ai toujours dit que Paul, c'était un terroriste. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Christ, de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Paul, il a une chose. Il veut gagner des âmes, gagner des âmes, gagner des âmes. Amen. Il est prêt à tout pour gagner une âme. Alléluia. Il dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, je ne vais même pas vous lire parce que c'est long, versets 9 à 23, il dit, je suis juif avec les juifs, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, je suis sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, je suis comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Avec les faibles, je suis faible, afin de gagner les faibles. Je me fais à tous et à tout, afin d'en sauver au moins quelques-uns. Alléluia. La valeur d'une âme. La valeur d'une âme. Vous savez, les pharisiens à ce moment-là, ils sont un petit peu comme des chrétiens qui, de nos jours aussi. On se fait un petit monde annoncer l'évangile dans une boîte de nuit. C'est pas fait pour ça. Une boîte de nuit, c'est pour danser. Et je suis persuadé encore aujourd'hui qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je ne mettrai pas mes pieds dans ce lieu de perdition. » Et mais je me dis « Heureusement que Josiane, elle l'a fait. Jamais j'aurais été là ce matin à vous prêcher. Il n'y a que là qu'elle pouvait me trouver. » En train de danser. Et je peux vous assurer une chose, c'est que j'ai jamais arrêté de danser. Je danse toujours. Et si je peux aller danser, j'irai danser. Parce que moi, ça me plaît. Pas vous ? Mais c'est pas grave. Il y a autre chose qui vous plaît. Mais moi, j'aime bien danser. Alors, ça ne me dérange pas de danser. Et de danser, s'il faut danser toute la nuit, je danserai toute la nuit. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, je suis avec des gens qui peut-être ne connaissent pas l'Évangile. Et je peux peut-être... Je ne prêterai pas Josiane, je ne la prêterai pas pour qu'elle danse avec les autres. Ça, je suis assez... je garde. Hein. Mais elle aussi, elle aime bien. Mais il faut se faire tout et à tous, afin de gagner quelques-uns. Jusqu'où je suis prêt à aller pour sauver une âme ? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sauvé, il a changé de l'eau en vin. Moi, je vous dis, je vous le répète tout le temps, mais c'est tellement quelque chose qui m'a marqué. La plupart des chrétiens, ils auraient changé l'eau, le vin en eau. C'est vrai. Mais en Amérique, c'est comme ça. Hein. C'est les puritains, ils vont vous changer le vin en eau. Mais merci Seigneur, on habite en France. Et en plus en Alsace, où la bière et le vin sont bons. Voilà. C'est une bonne chose. C'est ce qu'il a fait, Jésus. Il a changé l'eau en vin. On a dit, mais t'es un buveur, Jésus. Tu as un ami des publicains, des prostituées, des gens de mauvaise vie. On y a mis sur lui une étiquette, vous savez pourquoi ? Parce qu'il voulait sauver le monde. Parce qu'il savait la valeur d'une âme. Parce qu'il voyait cette âme assise avec lui dans le ciel. Alléluia. Pierre, un jour, cet homme, Pierre, il a une vision. Pierre, c'est un juif qui est assez rigide aussi. Il a une vision et sur cette vision, il y a tout, il y a une nappe. Et puis il y a plein de trucs à manger, quoi. Il y a du cochon, il y a des animaux qui sont morts. Un juif, il ne mange pas de cochon. Des animaux qui sont impurs. Et qu'est-ce que Dieu lui dit ? Mange. Mange. Mais jamais rien manger d'impur. Mange, je te dis. Et peu de temps après, Pierre, il fait une chose que les juifs ne faisaient jamais à cette époque-là. Peu de temps après, il rentre dans une maison où il y avait déjà des Romains, ceux qui ont... va participer à la crucifixion de Jésus, ceux qui ont annexé la Palestine. Enfin, toutes ces choses-là, vous vous rendez compte ? Et surtout des païens. Et les juifs n'ont aucune relation avec les païens. Et Jésus dit à Pierre, tu vas aller là-bas, tu vas rentrer dans cette maison, tu vas leur annoncer l'évangile, tu vas manger avec eux. Et Pierre, quand il voit cette vision, il dit, pour le prix d'une âme, je suis prêt à aller. Je suis prêt à passer pour quelqu'un, pour mes amis, pour les gens de ma nation, pour quelqu'un d'anathème, mais je vais aller les sauver, alléluia. Pierre, il a dû passer au-dessus de ses principes pour gagner une âme. Il y a un homme qui s'appelle Ananias. Ananias, c'est l'homme, eh ben, c'est un des responsables d'une église de Damas. Et dans Damas, il y a un homme qui s'appelle Paul. Et Paul, lui, il vient à Damas pour tuer et persécuter les chrétiens. Et dans une vision, Dieu parle à Ananias et lui dit, Ananias, tu vas aller dans telle maison, tu vas aller voir Paul, tu vas y imposer les mains et tu vas lui dire que je l'aime. Et Ananias, il dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Non, j'ai mal entendu ou tu te trompes, Seigneur. Paul, il vient pour nous persécuter, il vient pour nous détruire. Et Dieu lui dit, Ananias, passe au-dessus de ce que tu as entendu, fais ce que je te dis. Et Ananias, il va dans cette maison, il prie pour Paul. Paul qui est aveugle recouvre la vue. Et aujourd'hui, on lit ses épîtres, les épîtres de Paul, parce que la valeur d'une âme amène et nous fait passer au-dessus de nos principes. Alléluia. Quand Dieu le désire, je me confie à sa volonté. Le prix d'une âme est inestimable. Pierre, il a dû quitter son travail pour permettre à Jésus de monter dans la barque. Est-ce que Jésus peut disposer de notre vie comme il a pu disposer de la barque de Pierre? Est-ce que Dieu peut dire, j'ai besoin de monter dans ta vie? J'ai besoin, eh bien, de venir en toi, de demeurer en toi, amen. Jésus, il dit à Pierre, lance le filet. Et le royaume de Dieu, il est comme un filet. Et Jésus cherche des mains pour tirer ce filet, amen. Dieu cherche de la main d'œuvre. Dans Acte 20, et au verset 24, Paul dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Le prix d'une âme. Il y a un homme qui s'appelle Reinhard Bonnke. Un jour, on lui a dit à cet homme, tu vaux rien. T'as pas d'avenir. Lui, Reinhard Bonnke, il est venu vers son père, qui était pasteur. Il lui a dit, papa, je vais annoncer l'évangile. Il a dit, mais tu vaux rien, toi. C'est pas la peine, c'est ton frère qui va annoncer l'évangile. Lui, un jour, il a reçu cet appel d'annoncer l'évangile dans toutes les nations. Et Dieu s'est servi de lui. Amen. Et je voudrais juste vous lire le témoignage qu'il a donné. Il a écrit, je ne peux que donner mon témoignage. Je vous lis, hein. J'ai vu plus d'un million de personnes donner leur vie à Christ en une seule réunion et documenter leur décision, c'est-à-dire qu'ils l'ont écrit leur décision. J'ai vu 58 millions de personnes s'engager pour Jésus depuis l'an 2000 et cela n'est pas fini. Des multitudes sont guéries et sont remplies du Saint-Esprit. C'est le temps de la moisson, le livre des actes n'est pas le paroxysme de la puissance de Dieu. Il a seulement montré les premiers exemples des possibilités qu'ont ceux qui le suivent par le Saint-Esprit. Faites-lui confiance, n'acceptez rien de moins. Et il disait, je vous le lis, faites de l'évangélisation à nouveau une priorité dans vos vies et dans vos églises. Dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20, il est écrit, voici, je me tiens à la porte, c'est Jésus qui parle, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est touchant, hein ? C'est touchant, cette image de Jésus qui vient frapper à la porte d'une église, quand vous lirez dans Apocalypse, hein, chapitre 3, d'une église qui s'appelle Laodicée. Et il est là, devant cette porte, et qu'est-ce qu'il fait ? Il frappe. Et dans le livre de l'Apocalypse, Dieu il a donné une parole pour cette église existante. Et comme ce livre, c'est un livre qui est prophétique, c'est cette église, elle pourrait représenter un panel des églises d'aujourd'hui. Et l'une des églises, de ces églises, quand vous le lirez, elle s'appelle, son nom c'est l'église de Philadelphie. Et Philadelphie, c'est une église merveilleuse. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas rentrer dans les détails. Hein. C'est une église qui aime Dieu. Mais on va revenir à ce verset. Ce verset, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre et j'entrerai. Amen. Je me dis, mais vous vous rendez compte, cette image de Jésus qui frappe à la porte, elle n'a pas été donnée à l'église de Philadelphie, pourtant elle aurait pu, puisque c'était une église si merveilleuse. Elle a été donnée à l'église de Laodicée. Une église de croyants qui sont tièdes, de chrétiens qui ne sont pas tellement engagés, une église qui aime le compromis, une église qui ignore bien la volonté de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ? Parce que ça me parle, ces choses. Dieu me dit qu'avec toutes leurs erreurs, avec toutes leurs fausses doctrines, avec toutes leurs erreurs, eh bien, l'église de Laodicée, elle n'est pas loin du but. Il y avait une seule chose qu'ils avaient à faire. Ils devaient simplement se tourner et ouvrir la porte, et Jésus entrerait. Jésus ne les avait pas abandonnés. C'est eux qui s'étaient simplement détournés de lui. Et Jésus dit, voilà, ces choses, c'est la réalité. Ce que tu as fait, tu l'as fait. Mais aujourd'hui, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et aujourd'hui, malgré tout ce que tu as fait, si tu ouvres la porte, je ne t'abandonne pas. Je rentre chez toi et ta vie, elle, change. Alléluia. Et je me dis que si par l'Esprit de Dieu, Dieu frappe à la porte de l'église de Laodicée. J'aimerais te dire à toi qui as peut-être perdu le zèle pour évangéliser. J'aimerais te dire ce matin, t'es pas loin du but. T'es pas loin du but. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire fais à nouveau de l'évangélisation ta priorité. Que t'aies à cœur d'être un témoin de Jésus-Christ. Que tu as à cœur de parler de ce que Jésus fait. Amen. Vous savez, l'Église, ce n'est pas un bateau de plaisance. Ce n'est pas un bateau de croisière. C'est un navire de sauvetage. Et que ça soit du capitaine jusqu'au cuisinier, ou au matelot, j'en sais rien. Chaque personne, elle est nécessaire à bord pour gagner des âmes. Chacun, qui que nous soyons dans cette Église, on est prêt, on est nécessaire pour gagner des âmes. Vous le croyez ? Moi, je le crois. Alléluia. Reinhard Bunke, il a eu cette parole. Et j'aime autant que ce soit lui qui l'a dit. Il a dit, une église qui ne va pas à la rescousse des perdus, elle est perdue elle-même. C'est lui qui l'a dit. Une église qui ne va pas chercher les perdus, elle est perdue elle-même. Et cet homme a encore écrit, je ne crois pas que le plan de Dieu soit de permettre à l'enfer d'être plus grand que le ciel. Non. Non, 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 non. Il n'y aura pas plus de gens en enfer que dans le ciel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le but de Dieu. Le ciel, il est immense. Mais nous, on fait l'enfer grand. Parce que si je vais chercher les perdus, alors je vais dépouiller l'enfer pour les amener dans le ciel. Amen. La Bible dit que le chemin qui mène au ciel, au salut, est étroit, mais que le chemin qui perd à la perdition est large, et beaucoup s'engouffrent sur ce chemin, amen. Mais moi je me dis que même si beaucoup, il y en a qui s'engouffrent sur ce chemin, il y a une chose qui fait barrage à l'enfer, c'est la croix de Jésus qui se lève, qui se dresse sur ce chemin. C'est un barrage, amen, en plein milieu de cette voie qui mène à la perdition, amen. Il y a cette croix, et la seule façon d'aller en enfer, c'est de le vouloir. Il n'y a personne qui sera jeté en enfer parce qu'il ne le savait pas. C'est de le vouloir. Parce que cette croix, si je veux faire un étour, parce que je peux faire un écart, pourrait bien passer en dehors de cette croix. C'est un acte délibéré. Mais cette croix, elle se dresse. Alléluia. Alléluia. Et moi, et vous, en tant que disciples du Seigneur, vous vous tenez au pied de cette croix.
Vous êtes là au pied de cette croix et vous regardez les gens qui s'approchent pour aller se jeter dans cet abîme de perdition. Et vous leur dites, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Jésus nous dit, faites de toutes les nations des disciples. Amen. C'est pas vide de sens. Amen. Et je vais vous dire une chose encore, c'est que rien n'a été prévu dans l'Évangile ou dans la parole de Dieu. Rien n'a été prévu dans la parole de Dieu. Il faut que je lise ce que j'ai écrit. Rien n'a été prévu dans l'Écriture au cas où l'Évangile faillirait. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça ne sera jamais le cas. Si j'annonce l'Évangile, il n'y a rien qui est prévu. Ça ne peut pas marcher, non. Dieu nous demande d'être des vainqueurs. Les gens sont sauvés, ils sont guéris, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, plus que jamais, amen, on n'est pas appelé à nous engager dans une guerre dont la fin est incertaine. On est appelé à partager la victoire de Jésus-Christ. On est amené à partager le butin, amen, alléluia. Le secret invincible de la croix. Le secret invincible de Dieu, c'est la croix de Jésus-Christ qui effraie chaque démon en enfer. Amen. C'est pour ça que je vous parle. Je vous invite à vous joindre à une armée de conquérants. Amen. Non à soutenir une résistance désespérée. Notre capitaine, il ne perdra jamais la bataille. Vous le croyez ? Jésus est ton capitaine. Amen. Dis-le, Jésus est mon capitaine. Jésus est mon capitaine. Jésus est mon capitaine. Alléluia. Alors je ne perdrai jamais la bataille des âmes. Et je vais m'arrêter là. Mais je vais demander à un groupe de louanges de s'approcher et je vais demander exceptionnellement, je vais vous lire un petit cantique. Comme ça, Josiane, elle a le temps de se préparer. Je vais lui demander de venir et je vais vous chanter un cantique avec Josiane. Et vous pourrez chanter le refrain. Mais je voudrais vous lire un cantique qui m'a... Quand on le chantait, ce cantique, j'avais les poils des bras qui se levaient. Mais pas celui qu'on va vous chanter. Il y a un cantique de Ruben Saïance qui dit comme ça, « Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme ? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver. Qui va les aider à les trouver ? Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le salut d'une âme ? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous ? Ne voulons-nous pas aller tous ? Dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus ? Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme ? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Amen. Alors je vais vous chanter un chant et que Dieu puisse être glorifié. Amen. La valeur d'une âme. Eric et Chardin. Non, c'est pas vrai. Stone et Chardin. Stone et Chardin. Non, c'est pas du tout. Stone et Chardin. Non, c'est pas ça. Ça aurait été bien.
C'est pareil.
C'est pareil. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle au ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé. Arrache
cache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ ton sauveur. Et agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et les autres sauvera ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leur y sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute par la nuit d'amour, montre-lui la route du ciel saint séjour. Réagis,
on peut chanter ensemble.
Sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant.
Il reste 10 strophes, c'est presque, on va y arriver. Hein.
Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dites à ceux qui pleurent quand tout semble noir, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais.
Ensemble,
réagis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant.
Amen. On a le Seigneur merveilleux. Alléluia. On a le Seigneur qui nous aime. Amen. Alors on va aller les chercher. Est-ce qu'on est prêt à aller chercher ceux qui sont perdus? Est-ce que je suis prêt? C'est bien ma petite femme. C'est formidable. Est-ce que je suis prêt à aller chercher ceux qui sont perdus? La valeur d'une âme. La valeur d'une âme. Je ne peux pas rester. J'avais un pasteur qui disait toujours, lui, il était berger. Il disait, mais quand je voyais mon chien qu'allait se lancer dans le feu, ben je courais pour l'arracher du feu. Quand je vois d'une âme, elle se jette en enfer. Qu'est-ce que je vais faire pour l'arracher du feu de l'enfer? La valeur d'une âme. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. On est tous concernés, qui que nous soyons, que l'on connaisse la Bible ou qu'on ne connaisse pas la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est de témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Et si on est là ce matin, peut-être que Dieu a fait quelque chose dans nos vies. Et ce qu'il a déjà fait, amen, je peux le partager aux autres. Je peux dire, Jésus m'aime, il m'a aimé moi, il t'aime toi, c'est pas possible, je te connais trop. Il ne peut pas t'aimer, si il m'a aimé. Il m'a aimé, alors j'ai rien fait de bien, mais il m'a aimé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te partage cette bonne nouvelle. Qui est prêt à le faire? Qui est prêt à aller chercher les perdus? Qui est prêt à dire, moi, je veux passer au-dessus, eh bien, de tous mes principes, de toutes mes règles, pour aller chercher ceux qui sont perdus? Quand je mets le prix de mon âme, et que je mets toutes les richesses que le monde peut avoir sur la balance, et que mon âme est encore plus lourde, je dis, merci Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Pour moi, alors je vais le faire pour les autres. Je vais le faire pour ma famille. Je vais le faire pour mes enfants. Je vais le faire pour ceux qui m'entourent, mes voisins, mes collègues. Pour ceux bien que je ne connais ou que je ne connais pas, Seigneur. Mais utilise-moi, Seigneur. C'est vrai que ce serait tellement mieux au ciel. Je n'aurais pas de problème. Mais si tu permets que je sois sur cette terre, c'est que tu veux que j'accomplisse cette place, cette tâche de lancer le filet. Amen. Je lance le filet, je le ramène, et c'est toi qui lances les poissons, toutes ces âmes dans le filet, afin que je sois un pêcheur d'hommes. Oh, je te remercie, Seigneur. Merci pour ceux qui veulent se confier, se dire, ben moi, je veux parler de toi. C'est une tâche que le Seigneur te confie ce matin. Amen. Je vais encore faire un appel. Qui veut le faire? Levez votre main, on a les têtes baissées, moi je vous vois, mais votre voisin ne vous voit pas, amen. Alors, on va prier ensemble, alléluia. Qui veut le faire? Allez chercher ceux qui sont perdus.
témoigner autour d'eux. Oh, je te loue, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu fais, Seigneur. En ton nom précieux, Jésus-Christ. Et on dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur.